3, 2, 1.
Masoif.com est la référence pour vos achats en ligne de bières de microbrasserie d'ici. Masoif.com, une épicerie virtuelle qui vous propose des produits 100% locaux et une expérience de magasinage en ligne unique. Nous offrons la livraison quotidiennement sur presque tout le territoire de la capitale nationale et sur la rive sud de Québec. Encourageons local avec Masoif.com.
Choix.
98.1 Radio.
Radio X.
Marceau. Marceau. Le soir avec Marceau.
Radio X.
On est mercredi et un mercredi sur deux, on parle avec Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Salut Steph!
Bonsoir Yannick.
Oui monsieur, gros dossier de la grande ville de Québec, coin Charest. et de la rue de la Couronne, le Starbucks ferme ses portes.
Ouais, puis ça vient vite à voir ça. C'est lundi prochain, le 1er février. Là.
Ouais, c'est pas un peu inquiétant, ça, parce qu'on va se le dire, à cet endroit-là, il y a beaucoup de monde qui passe. Est-ce que c'est parce qu'ils faisaient pas leurs frais ou parce qu'il y avait d'autres objectifs? Je sais pas.
Je sais pas c'est quoi la raison finale, sauf que depuis 9 mois, quasiment 10 mois, là, tu sais, il y a beaucoup de fonctionnaires dans le coin qui sont en télétravail, il y a beaucoup de gens d'informatique dans le coin qui sont en télétravail, il y a beaucoup de bureaux aussi de privés là qui ont diminué leurs activités, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, tu sais, des affaires comme la Liberté là, ça a l'air de rien, mais il y en avait du monde qui allait là puis qui travaillait là. Ça fait une grosse perte d'achalandage là, sur une petite période de temps. J'ai l'impression que ça a dû jouer dans la décision, certains.
Écoute, juste ici, on a 5 ou 6 étages de stationnement souterrain, puis il y a 1,5 étage d'ouvert.
Mm-hmm. Ouais.
Je veux dire, il y a du monde en tabarouette en télétravail, ça fait beaucoup moins de monde sur la route. Puis Starbucks, de ce que je comprends, c'est que c'est une restructuration qu'ils avaient annoncée sur 5 ans. Puis là, ils ont décidé de la faire sur 18 mois plutôt que 5 ans. J'imagine qu'il y a quelque chose qui presse. Et il y auront certainement des restaurants qui offriront le service au volant maintenant.
Oui, ça, j'ai vu ça, cet article-là aussi. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, les actionnaires, là, ils veulent des résultats rapides, là. Tu sais, c'est de trimestre en trimestre. Fait qu'il faut que ça bouge. Fait que s'ils étaient déjà dans une période de restructuration, puis arrive la pandémie, bien, il faut que tu restructures plus vite, là. T'as pas le choix. Parce que sans ça, les actionnaires, ils vont changer les gens au poste clé, puis ils vont s'organiser pour que ce soit plus drastique que ça. Mais moi, j'ai ma fille qui travaille ici avec moi, qui, elle était bien peinée que son Starbucks ferme.
Ouais.
Comme d'autres gens que je connais qui peuvent pas commencer leur journée sans leur Starbucks, mais ils vont devoir trouver d'autres choses.
Oui, mais le Tim Hortons fait un job aussi. T'as le McDo,
Les petits cafés du coin aussi, là.
Oui, les petits cafés du coin, effectivement. Mais toi, t'es plus Starbucks, hein? Toi, t'es millennial, pas mal, là.
Starbucks, hein? Ouais.
Ton café, t'as quoi? Camomille?
Quand je vais au Starbucks, c'est le caramel brûlé que
caramel
je prends
brûlé,
généralement. Ou un petit hibiscus, tout simplement.
Puis vous appelez ça encore du café? Ouais.
Non. Du sucre.
Mais ici, on n'est pas très gâtés en termes de Tim Hortons puis McDonald's. Tu sais, le McDonald's le plus proche, c'est celui-là, ton McDonald's où tu travaillais, là, c'est à la rue Saint-Jean.
Ouais.
Et Tim Hortons, là, il faut aller quasiment là, à la limite avec
Saint-Sacrement.
On n'est pas gâté beaucoup. Là.
Sinon, vous avez le boulevard Amel, mais t'as raison. Il n'y a pas grand-chose avec un service au volant
dans ce
secteur-là. Bref, c'est plate pour Starbucks dans le centre-ville de Québec. Coin de la Couronne et Charest, c'est terminé dans quelques jours. Ce soir, on parle des 10 questions que les syndics autorisés en insolvabilité se font le plus poser.
Oui, on a beau voir des
centaines... C'est payant, ça être syndic de faillite?
Ah ouais,
ça fait-tu partie des questions?
Ben, c'est comme n'importe quelle autre chose. C'est comme n'importe quoi d'autre. Si tu travailles fort et tu as des bonnes idées, ça va être payant. Mm-hmm. Parce qu'il y a des syndics de faillite qui réussissent à faire faillite. Fait que quelque part, là...
Attends un peu, c'est pas vrai, ça.
Oh, il y en a des syndics qui ont déjà fait faillite.
Des syndics autorisés en insolvabilité qui ont fait faillite.
T'es exposé aussi, tu prends des risques d'affaires, t'as une marge de crédit, t'as des fournisseurs à payer, du staff à payer, de la publicité à payer. Puis des fois, tu peux être bad lucky ou le marché que t'anticipes, il se réalise pas. Fait que comme n'importe quelle entreprise, un syndic peut faire faillite aussi.
Ben, tu vois, tu me surprends parce mm-hmm. que, tu sais, exemple, une chaîne comme McDonald's dans le temps, là, ils acceptaient pas qu'un restaurant McDonald's puisse faire faillite, là. Tu sais, ils s'organisaient d'une façon à s'entendre avec le propriétaire de l'établissement pour peut-être vendre des parts, puis acheter un autre McDo à quelque part qui ferait en sorte qu'ils pourraient jumeler là, avec les deux revenus des restaurants. Ils pourraient réussir à arriver à la fin du mois. Mais un syndic autorisant l'insolvabilité qui fait faillite, je la trouve pas pire.
Oh, c'est arrivé à quelques reprises, dans la région de Québec puis à l'extérieur aussi.
Puis là, inévitablement, le gars peut plus pratiquer.
Ben c'est ça, parce que le syndic, c'est d'abord et avant tout un fiduciaire, là, ouais. En anglais, trustee, là. Puis en vertu du Code civil du Québec, ben un fiduciaire peut pas être un failli non libéré. Fait que tu perds ta capacité de gérer les biens ou l'argent des autres.
Okay.
Tu sais, il y a des provisions dans la loi. Le surintendant des faillites peut, après la libération, accorder une licence restreinte, même pendant qu'il est en faillite. Il peut lui permettre de poser certains gestes, mais tu sais, c'est l'exception. Là.
OK. Pourquoi je dois absolument passer par un syndic pour faire faillite ou encore déposer une proposition consommateur?
Parce que au Canada, là, c'est ce qui régit le domaine de l'insolvabilité. C'est une loi fédérale qui est la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Puis dans la loi, on dit ben les seules personnes habilitées à recevoir là, une cession de biens, la faillite, ou une proposition de consommateur, c'est les syndics de faillite ou encore des administrateurs de propositions de consommateurs. Alors, dans l'Ouest, là, il y a des gens, tu sais, je sais que l'Alberta, un bout de temps, c'était la province qui gérait, il y avait une licence de syndic pour gérer les propositions de consommateurs. Mais c'est juste les gens qui ont une licence de syndic ou d'administrateur de propositions de consommateurs qui peuvent gérer des dossiers de faillite ou de proposition. Alors, quand on voit dans les journaux, des fois, ou sur Internet, des gens qui disent « on va vous débarrasser de vos dettes », puis c'est pas des syndics autorisés en insolvabilité, ben posez-vous des questions sur la légitimité des gestes qu'ils vont vous faire poser ou de la légalité de ces gestes-là. Faut toujours être très prudent.
Tu vois, il y a deux semaines, j'étais en train d'allumer le petit feu chez nous, la fin de semaine, je pense que c'était un samedi ou un dimanche, puis j'étais en train de lire les morceaux que j'allais brûler. Tu sais. J'ai tombé sur les avis de faillite. Puis, il y a comme à la même adresse, mettons, à Lac-Beauport, la personne avait 5 entreprises puis déclarait faillite dans ces 5 entreprises. Ouf. Steph, des fois, je me demande comment ça peut arriver, ce genre d'affaires-là. Là. Tu mets tes 5 entreprises en faillite en même temps, tu sais, c'est...
Bien, ça peut être dû au fait que les 5 entreprises, même si c'était des entités différentes,
ouais.
pouvaient être fortement liées entre elles, tu sais. Une fournissait, elle était propriétaire de la bâtisse, l'autre compagnie était locataire, l'autre compagnie était fournisseur, puis c'est de la chaîne, elle est de même. Puis la minute qu'il arrive une bad luck dans une des compagnies, bien, la chaîne, elle débarque. Là. Fait que ça entraîne toute la déconfiture des autres compagnies ou des compagnies qui sont très liées avec celle-là.
Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les créanciers peuvent refuser l'offre que le syndic en insolvabilité fait? Avec l'individu?
Bien, pour quelqu'un qui fait une faillite, là, qu'on estime, là, puis cette personne-là estime là, qu'il n'y a pas d'autre choix
ouais.
que la faillite, bien, les syndics, les créanciers, c'est-à-dire, ne peuvent pas refuser ça. C'est une question de fait. La personne, là, si elle est insolvable, a plus que 1000 piastres de dette, puis n'est pas capable de faire face à ses obligations financières au fur et à mesure qui sont dues, bien, les créanciers n'ont rien à dire. À la seule exception, que si la faillite est frauduleuse, la personne a caché des biens, a caché des revenus. Puis si tout ça, ça avait été dévoilé, bien, elle ne serait pas insolvable. Bien, les créanciers, le syndic ou le bureau du surintendant des faillites peuvent faire annuler cette faillite-là. C'est pas comme, tu sais, les créanciers, on leur demande de voter quand c'est une proposition. Parce que c'est une offre qu'on leur fait. On dit aux créanciers, regarde, Monsieur Untel, il va vous offrir tant de piastres sur telle modalité, puis ça va vous donner 10, 12 ou 15 %. Là, on explique pourquoi on recommande la proposition. On dit, ben, regarde, s'il fait faillite, ça va donner X %, tandis que dans la proposition, c'est Y %. Et les créanciers, généralement, ils vont suivre la recommandation du syndic, mais ils peuvent la refuser aussi, pour diverses raisons. Puis ça, ils peuvent refuser cette offre-là. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Mais la faillite en tant que telle, ils ne peuvent pas refuser la faillite d'une personne. C'est une question de fait, ça.
Isabelle nous écrit une question pour Stéphane. Je dois faire faillite malheureusement ou j'ai l'impression que je dois faire faillite dans les prochaines semaines, mais... là, j'essaie de recomposer le texto, là. Mais quelque chose me titille l'esprit. Est-ce que je vais perdre toutes les REER que j'ai mis de côté pendant plus de 20 ans?
OK. Ça, c'est la question 8, là. Mais il n'y a pas de problème. Les REER, quand ils ont modifié la loi, là, en 2008, ils ont établi le fait que... Ils ont rétabli une iniquité qu'il y avait dans la société, c'est que si toi, t'es fonctionnaire, puis t'as un fonds de pension, 800 000 dans ton fonds de pension,
ouais.
Tu fais faillite, tu perdais pas ton fonds de pension. Alors que quelqu'un qui avait des REER, il y en avait sous une forme saisissable, elle faisait faillite, elle perdait ses REER. Alors là, le fédéral, il a accaparé un champ qui lui appartenait pas, parce que tout ce qui s'appelle insaisissabilité, c'est de juridiction provinciale. Alors, le fédéral de gamme, les REER, là, ils vont désormais être insaisissables, sauf les cotisations que tu vas avoir faites dans les 12 mois avant la faillite.
OK.
Alors, si tu as 1 million dans tes REER puis tu as cotisé 20 000 $ dans les 12 derniers mois, bien, le pire que tu vas perdre, c'est le 20 000 $ que tu as cotisé dans les 12 derniers mois. La balance, ça va être protégé par la loi.
Okay. Mais tu sais, je me mets dans la tête d'un fournisseur, là, puis je te donne deux cas, OK? Un individu qui travaille peut-être à 15 de l'heure, qui a un petit peu de REER, puis malheureusement, suite à des mauvaises décisions, doit faire une proposition au consommateur ou doit déclarer faillite. Bon, oui, t'acceptes là, l'offre, mais de l'autre côté, t'as, je sais pas moi, l'ancien professeur de l'Université Laval qui a gagné 160 000 toute sa vie jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Puis là, ben, il y a un revenu à la retraite de 80 000 par année. Lui, il a fait les mêmes mauvais choix, mais il y a 80 000 qui rentrent pareil. Ça doit être fâchant, par contre, pour certains fournisseurs de savoir ça, là.
Bien, si ton ancien professeur, il y a 80 000 de revenus de retraite, puis il fait faillite, bien, il y a une portion de ces revenus-là qu'il va devoir remettre au syndic pendant 21 mois si c'est sa première faillite. T'sais, plus il va gagner d'argent pendant sa faillite, plus il va devoir contribuer
plus ça va
à
augmenter.
Sa faillite pendant
okay.
plus longtemps. C'est ça. Fait que, t'sais, on retrouve une certaine équité là, à ce niveau-là.
Parfait. OK. Ben, tu vois, je trouve ça un peu plus logique parce que c'est vrai, dans le fond, quelqu'un qui fait 15 de l'heure, qui a pris des mauvaises décisions, t'sais, une fois que la faillite, bon, c'est accepté et tout ça, tu as un montant à payer pendant des mois et des mois et des mois, mais tu gagnes toujours 15 mm-hmm. piastres de l'heure. Puis de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a été, on va se dire, là, gâté par la société. Puis lui, il en fait 80, je veux dire.
C'est pas égal du tout.
Non, je suis d'accord avec toi, mais reste que s'il fait faillite, il va payer plus. Okay. Puis la loi de faillite là, canadienne, là, on dit pas qu'elle est parfaite, là, mais c'est probablement une des meilleures lois au monde. Puis quand les pays de l'Est là, sont détachés de l'URSS, là, fin des années 80, début des années 90, ben, ils adoptaient le régime le capitaliste. Puis, bien là, veux pas, ça allait entraîner des faillites,
ouais.
Parce que c'est une façon de nettoyer le système. Alors, il y a beaucoup de ces pays-là ils se sont inspirés de la loi de faillite canadienne.
OK. Oh. Ah ouais.
Oh, oui. Il y a des consultants là, de Canadiens, des grosses boîtes qui avaient des mandats pour mettre en place des régimes d'insolvabilité qui s'apparentaient à ceux du Canada là, pendant toutes les années 90.
Une fois que je fais faillite, est-ce que je dois absolument avertir mon employeur pour lui dire que je suis en faillite, là, tout simplement?
Ben, non, pas nécessairement. Puis c'est l'employeur, c'est rare qu'il va le savoir. Sauf que si avant la faillite... Il y a un de tes créanciers qui avait saisi ton salaire.
Ouais.
Ben, le syndic va envoyer un avis au créancier, à la cour et à l'employeur pour dire d'arrêter cette saisie-là.
OK.
Alors, c'est une façon dont l'employeur va savoir. Puis, il y a aussi le fait que si tu travailles dans le domaine où, pour exercer, il faut que tu aies un permis qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, puis pour X raison, il faut que tu fasses faillite. Bien, tu vas devoir non seulement viser ton employeur, mais l'autorité des marchés financiers parce que ça peut te retirer ton permis de pratique ou le restreindre de façon importante. Puis en vertu de la loi, de leur loi, l'autorité des marchés financiers, tu es obligé de les aviser quand tu fais une faillite.
OK. Conjoint, on est obligé de les aviser?
Ben, ça, c'est une bonne question. Ça a l'air drôle de même, là, mais moi, j'ai des gens qui viennent faire faillite ici ou faire des propositions. Est-ce que mon conjoint va être au courant de ça? Je dis, ben, si tu poses cette question-là, c'est peut-être que tu as un problème déjà dans ton couple. Là. non, il ne saura pas. Il ne saura pas. Sauf qu'évidemment, le syndic doit transmettre là, des avis aux débiteurs pour, entre autres, les consultations puis différentes choses. Sauf que, tu sais, maintenant, avec le courriel, on peut transmettre ça par courriel à une adresse courriel secrète là, auquel le conjoint n'a pas droit. Mais c'est une question qu'on se fait poser à l'occasion.
Ouais, ben ouais, c'est ça. Mais en même temps, t'as maison, voiture, des fois, c'est aux deux noms. Mm-hmm. Ça peut être particulier de faire faillite sans que l'autre soit au courant. Mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours mieux d'y mettre au courant de part.
Oui.
Mais si la personne, mettons, elle n'a pas de biens saisissables, là,
ouais.
Les meubles meublants sont insaisissables,
uh-huh.
Elle a un char loué, ils sont en appartement, le conjoint, on n'a pas besoin de sa collaboration, puis on n'a pas besoin d'informations de lui, puis on n'a pas à y en fournir non plus. Mais effectivement, si ils sont 50-50 dans la maison, puis la maison est toute payée, ben là, on n'aura pas le choix d'y parler au conjoint, parce que soit qu'on va y vendre notre part de la maison, ou qu'on va s'organiser avec lui pour la mettre en vente, la maison. Puis là, il n'aimera peut-être pas ça.
Mm-hmm.
Autre question qui vient de rentrer, puis ça, c'est pas la première fois que tu vas y répondre, Stéphane, mais c'est tout le temps surprenant le nombre de personnes qui nous écrivent après. Là.
Mm-hmm.
Quand une conjointe prête 10 000 $ à son conjoint, puis que son conjoint fait faillite, est-ce qu'il peut mettre dans ses dettes, finalement, le prêt personnel que son ex-conjointe lui a fait?
Oh, ouais, absolument. Absolument. Ça fait des. Tu parlais tantôt, là, il faut que tu fasses le ménage, tu veux avoir du bonbon, là. Mais là, ça risque d'être dur sur le bonbon, là, pendant quelques semaines, mais effectivement, c'est une dette comme n'importe quelle autre. Puis le syndic va envoyer un avis de la faillite à ce conjoint-là qui a prêté 10 000 $. Puis il va remplir un formulaire de preuve de réclamation. Puis là, ben, le syndic va être plus pointilleux sur la qualité des pièces justificatives, là. Regarde, voici, j'ai prêté, il m'a signé un billet. Voici la preuve que l'argent est sorti de mon compte de banque, je l'ai transféré dans le sien. Parce qu'il y en a qui peuvent s'organiser pour faire des fausses réclamations, ce qui est illégal en vertu de la loi.
Mais dans mon cas, moi, je l'avais, tu sais, moi, j'ai déjà prêté un montant d'argent X, là, dans le temps, je pense que c'était un genre de 15 000 $ pour rembourser des dettes. Puis je l'avais fait notarié, c'était correct, ça?
Bien, le notarié, là, la seule affaire que ça change, c'est que c'est sur du papier plus sophistiqué, puis il faut que tu payes pour le faire.
Du plus beau papier.
Oui, ça donne pas plus de droits. Mais si, par contre, la personne à qui tu prêtes 10 000 $ ou 15 000 $ comme dans ton exemple, elle a un véhicule qui a de l'allure puis qui est tout payé, bien, elle peut te consentir une hypothèque mobilière sur son véhicule.
Okay.
Qui va être publié au registre des droits personnels et réels mobiliers. Puis s'il ne te paye pas, ben là, même s'il fait faillite, tu vas pouvoir récupérer le véhicule ou le faire saisir puis le faire vendre en justice.
Okay. C'est la même chose pour un entrepreneur. J'ai un de mes chums qui fait des piscines pour des gens qui sont très aisés. Puis à un moment donné, il y a eu des doutes comme quoi l'individu pour lequel il faisait sa piscine intérieure n'allait pas le payer. Ben, il se posait des questions à savoir s'il pouvait prendre une hypothèque légale sur la maison dans son entièreté qui n'était pas finie de bâtir.
Oui, dans le domaine de la construction, là, tu peux prendre l'hypothèque légale du domaine de la construction.
OK.
Ça donne un droit, là. Puis il y a tout un régime là, qui parle de ça. Là.
Ça, c'est pour être sûr de faire payer.
Justement, les entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux là, qui ont participé à la construction d'un immeuble.
OK. Donc ça fonctionne aussi. Est-ce que, je sais pas, Bérénice fait faillite, est-ce que tu vas te faire un plaisir de mettre son nom dans le journal?
Non, la publication, parce qu'il y a deux types de faillites. Au niveau des compagnies, c'est toutes des faillites qu'on appelle des faillites ordinaires.
Ouais.
À ce moment-là, il y a toujours une publication dans un journal local. Puis le but de ça, c'est d'aviser les personnes qui auraient pu être oubliées ou omises dans la liste des créanciers de pouvoir se manifester. Alors, quelqu'un voit là, un avis de faillite, tabarnouche, elle me doit 3 000 $ cette entreprise-là. Alors, elle appelle le syndic le lundi matin, « Monsieur, je suis créancier, est-ce que je pourrais avoir le kit de la faillite, là, le creditor's package qu'on appelle? » On y envoie ça, puis cette personne-là peut venir à l'assemblée de créanciers, puis poser des questions, puis faire valoir ses droits. Pour ce qui est des individus, bien, il y a deux types de faillites. Il y a la faillite ordinaire, comme une compagnie, c'est-à-dire la personne ne possède plus de 15 000 $ d'actifs libres, des actifs tous payés qui ne sont pas insaisissables, à ce moment-là, il y a une publication dans le journal. Puis l'autre type de faillite personnelle, c'est la faillite sommaire, évidemment, où la personne a moins de 15 000 $ de biens ou d'actifs libres. À ce moment-là, il n'y a pas de publication dans le journal.
OK. Est-ce que Stéphane a bien dit que chez le notaire, c'est aussi valable que quelqu'un qui fait une reconnaissance de dette à la main? Oui, c'est ça que tu as dit, hein, Stéphane?
Mm-hmm.
Oui,
définitivement. Ouais. Mais le notaire, il risque de mettre plus de détails pour que ce soit plus clair. Parce que j'ai déjà vu des gens qui se prêtaient là, des milliers de dollars. C'était fait, c'est un napkin. Là, ça a quasiment l'air d'un plan de tramway. Là. tu manques l'essentiel. C'est quoi? C'est-tu prêté ou donné? Y a-tu un taux d'intérêt? C'est quoi les modalités de remboursement? Le notaire, quand tu vas payer ce professionnel-là pour qu'il constate la créance, ben là, lui, il va dire, ben regarde, il va dire à son client qu'il faut qu'on mette un taux d'intérêt, il faut qu'on mette des modalités de remboursement, il faut qu'on mette un paquet de détails, s'il est en défaut, qu'est-ce qui arrive, etc. Alors, le notaire, tu ne payes pas pour rien, c'est pas juste du beau papier. Il va te guider pour protéger tes droits puis tes recours.
Oui, vas-y, Steph.
Mais ça ne te donne pas plus de droits comme créancier, par contre.
OK. Est-ce que quelqu'un qui est sur la CNESST est saisissable?
Bien, non, c'est des revenus insaisissables, sauf que quand elle fait faillite, on doit tenir compte de ces revenus-là pour établir le montant qu'elle va avoir à payer au syndic dans le cadre de sa faillite.
Je continue avec les questions. Est-ce que les dettes contractés avec l'aide sociale sont éligibles pour entrer dans une faillite personnelle?
Bon, il y a deux types de créances qui peuvent être réclamées par l'aide sociale. Si, mettons, vous vous êtes fait pogner parce que vous avez fraudé l'aide sociale, vous aviez de l'aide sociale alors que vous travailliez, vous avez fait de fausses déclarations, puis l'aide sociale, ils disent, ben, regarde, ça fait 3 ans que tu nous fourres comme ça, là, alors tu nous dois 35 000 $. Si la personne fait faillite, c'est une dette non libérale parce que c'est une dette qui a été créée par la fraude ou de fausses représentations. Si, par contre, la CSST, elle se rend compte que, finalement, ils se sont trompés, c'est pas 1100 $ par mois que tu aurais dû recevoir, c'est 980 depuis 3 ans, puis elle te sort un bill, tu fais faillite, puis c'est juste eux autres qui ont mal évalué ou qui ont réévalué ton admissibilité à ce régime-là. Bien là, ça, c'est une dette libérable, parce que ça n'a pas été créé par la fraude.
Est-ce qu'on peut choisir les dettes qu'on met dans une faillite ou encore une proposition?
Bon, ça, c'est quelque chose qu'on se demandait souvent, là. Alors non, c'est un régime, c'est tout ou pas en tout. Tu déclares toutes tes dettes, puis tu déclares tous tes biens aussi. Puis quand tu remplis les documents pour la faillite ou la proposition, bien, tu es assermenté. Tu dis, oui, je déclare que c'est un état véridique et complet de mes affaires, autant de mes dettes que de mes actifs. Tu es assermenté, puis il y a des dispositions de la loi qui dit que si tu as fait une fausse déclaration, bien, c'est une infraction en vertu de la loi sur la faillite. Mais, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais lui, je suis pas pour le mettre, il va m'arracher la tête, ou lui, c'est mon beau-frère, je vais m'organiser avec lui. Ben, regarde, alors, mets-le sur la liste des créanciers. Une fois que tu auras été libéré de tes dettes, là, tu n'auras plus aucune obligation légale de le payer, là. Ben, si, après ta libération, puis que le dossier est fermé, tu décides de le payer, ben, ce sera une dette morale.
À partir de quand nos créanciers doivent cesser de nous harceler?
Bon, dès qu'ils savent que la personne est en faillite ou en proposition. Alors, mais tu sais, ça se fait pas dans minutes. Là, le syndic, il dispose d'après une semaine pour envoyer les avis aux créanciers. Puis des fois, quand le créancier, c'est une grosse organisation, bien, le temps que ça se rende sur le bon bureau, ça peut prendre du temps, surtout s'ils sont en télétravail. Mais généralement, quand le créancier a la confirmation que la personne est en faillite ou en proposition, il doit arrêter là, ses recours ou arrêter de les poursuivre.
Okay.
Sauf, évidemment, si tu dois des pensions alimentaires, le percepteur des pensions alimentaires, lui, la faillite, ça ne l'arrêtera pas à cause de la nature particulière de cette créance-là. Puis le percepteur des amendes, lui, ou le chômage, qui essaye de te réclamer des prestations que tu as eues par la fraude, ça va être arrêté par la faillite aussi.
Ah, puis je t'ai déjà parlé d'un gars avec qui je travaillais dans la restauration. Tu sais, il y a des compagnies qui recouvrent les dettes, là.
Oui.
Oui.
Écoute, il
les
appelait...
agences de recouvrement.
Il appelait à chaque soir au restaurant pour y parler. Là. Oui. T'imagines-tu?
C'est ça... gênant, là.
Ben, c'est gênant, parce qu'à un moment donné, tous les employés dans le business savent qu'il y a des...
Tu dois de l'argent.
Des compagnies qui recouvrent des dettes qui mm-hmm. t'appellent. Je veux dire, c'est gênant en maudit, là. Mais toi, tu me dis, à partir du moment où on va te voir, là, ben, il y a un signal qui est envoyé à ces créanciers-là. Ben, après un certain temps, ils arrêtent de t'harceler. C'est une bonne nouvelle, ça.
Ouais, ben, c'est ça. Puis même quand, mettons, la personne a signé à 3 heures de l'après-midi ici... Puis le soir, l'agence de recouvrement l'appelle, dit « Bon, Jean-Maurice, là, quand est-ce que tu nous payes? » Il dit « Quand j'ai fait faillite cet après-midi chez Leblon et Associés ou peu importe où. » Appelez-le, il va vous confirmer ça. Bien, le lendemain matin, la personne qui travaille à l'agence de recouvrement nous appelle. On dit « Parfait, oui, voici le numéro du surintendant, numéro de dossier, etc. Voulez-vous que je vous transmette un document qui confirme ça? » Puis généralement, ils prennent les informations au téléphone, puis ça fait un dossier classé.
OK. Puis là, il n'y a pas de danger parce que je sais qu'il y a, bon, il y a une compagnie de recouvrement qui, c'est comme le premier palier. Puis quand ça ne marche pas, ben, il y a comme une autre compagnie de recouvrement qui, eux autres, c'est le deuxième palier. Puis eux autres sont encore plus agressifs.
Oui, bien, ça arrive souvent que les grosses organisations, les émetteurs de crédit, là, ils envoient des dossiers en recouvrement à telle agence. Puis après ça, si ça ne marche pas, la balance, ils envoient ça à telle autre agence. Puis ça peut se promener... entre 3-4 agences, mais c'est plutôt rare. Mais c'est la minute qu'ils le savent, là, c'est rentré dans le système, c'est correct.
Est-ce que je peux faire une faillite ou encore une proposition si un créancier a déjà un jugement contre moi?
Oui, absolument. Puis ça, il y en a des gens qui s'empêchent de faire faillite. T'sais, les gens qui disent, regarde, moi, ça fait 4 ans que Revenu Canada saisit ma paye ou que Revenu Québec saisit ma paye. Parce que j'avais l'impression que, comme c'était trop tard dans le processus, je ne pouvais pas faire une faillite ou une proposition. Ben oui. Même si le jugement est rendu, même si le créancier a commencé à exécuter son jugement, mais l'huissier est dans le salon puis est en train de vendre la grosse télé, bien, vous pouvez déposer une faillite, puis le syndic va envoyer ce qu'on appelle un avis de sursoir pour arrêter non seulement l'effet du jugement, mais l'exécution de ce jugement-là.
Il y en a, Steph, qui n'ont pas fait de déclaration d'impôt pendant des années. Parfois, tu peux avoir une belle nouvelle parce que là, c'est le gouvernement qui te doit de l'argent. Puis d'autres fois, ben, ça peut être un véritable cauchemar où tu dois, mettons, 50 000 $ avec l'arriérage et tout ça. Est-ce que, je sais pas, moi, je décide de faire faillite parce que moi, le 50 000 ou le 60 000 que le gouvernement me demande, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux embarquer cette dette-là dans une faillite?
Oui, tu peux embarquer ça, cette dette-là, définitivement. C'est une dette tout ce qu'il y a de plus libérable, autant l'impôt fédéral puis l'impôt provincial. Puis, c'est une affaire qu'on voit depuis plusieurs années, là, c'est que les gens, ils viennent me voir, ils disent, regarde, là, Revenu Québec ou Revenu Canada, mais c'est généralement Revenu Québec, ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de déclaration d'impôt, fait qu'ils m'ont cotisé arbitrairement. Ils ont évalué ce que j'ai gagné à partir de divers documents. Puis là, ils ont saisi mon salaire ou ils ont saisi mon compte de banque. Fait que là, tu dis, bon, parfait. Alors, tu sais, s'il y a d'autres créanciers autour de ça, ben on dit, parfait, on va faire une proposition ou une faillite, peu importe. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va faire venir... Tu sais, la personne, tu lui demandes, ça fait combien de temps tu n'as pas fait de déclaration d'impôt? Il dit, ben, tu sais, je n'ai pas fait depuis 2008. Ouais, c'est ça, c'était le 400e. Fait que là, tu dis parfait. Alors, on lui fait signer une procuration, ouais. Le fédéral puis le provincial. Puis on va demander aux deux ministères du Revenu de nous confirmer c'est quoi les années qui manquent. Généralement, ils vont se limiter aux 10 dernières années. Puis on va leur demander de nous transmettre tous les feuillets parce que quand ton employeur il t'envoie le T4, il envoie une copie au gouvernement. Alors, on peut avoir ça par les ministères du Revenu. Puis, on va faire toutes les déclarations d'impôts qui sont dues. Puis souvent, il peut y avoir des belles surprises. Le ministère du Revenu du Québec a évalué que c'était 35 000 $ qui étaient dus puis qui a saisi en fonction de ça. Bien, souvent, ça peut être juste finalement 10 000 ou 3 000 ou zéro ou encore un remboursement d'impôts, là.
Okay.
Il peut y avoir des belles surprises.
Question de Nicolas par texto. Mon père qui est décédé il y a de ça un an et demi devait environ 14 000 $ sur une carte de crédit. Est-ce que la dette va être libérée un jour ou il va falloir que j'acquitte moi-même ce paiement? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un arrangement avec la compagnie de carte de crédit?
Bon, une succession, quand quelqu'un décède, le liquidateur de la succession, il doit faire un inventaire pour déterminer si la succession est solvable ou pas. Alors, être solvable, c'est qu'il y ait plus d'actifs que de dettes. S'il y a plus d'actifs que de dettes, bien, il va liquider les biens, il va payer les créanciers, puis le surplus, il va le distribuer entre les héritiers. Mais si on se retrouve en face d'une une succession où il y a plus de dettes que de biens, bien, le liquidateur, il va dire aux héritiers, il va dire, ben, regarde, si vous acceptez la succession, vous allez ramasser les dettes aussi. Vous allez devoir les payer. Alors, à ce moment-là, généralement, les héritiers, ils vont renoncer à la succession. Puis ça va aller, la succession, à ce moment-là, va être réglée par le curateur public, qui est une division de Revenu Québec, qui va liquider les biens, puis il va distribuer au prorata les sommes entre les créanciers. Ou encore, la succession, si ça peut être intéressant pour, autant pour les créanciers que pour les héritiers, la succession peut faire faillite aussi.
Est-ce que, dans le cas où je fais une proposition du consommateur ou encore une faillite, est-ce que je risque de perdre ma maison ou encore mon auto?
Bon, si vous faites une proposition, là, le principe de la proposition, c'est que vous gardez vos biens. OK? Fait qu'en autant que vous respectez les dispositions de la proposition, ce qui aurait été accepté par les créanciers, il n'y a pas de problème. Au niveau de la faillite, là, ben, la plupart des chars qu'on voit dans les faillites sont soit loués, à ce moment-là, la personne, si elle veut le conserver, elle continue les paiements, puis il n'y a pas de trouble, soit financés, puis avec les périodes de financement qui sont de plus en plus longues, il y a rarement de liquidité sur ces véhicules-là. Alors, si la personne veut le garder, elle a juste à continuer pas mal. Le syndic va confirmer ça aux créanciers. Sauf que, bien souvent, c'est le char vaut 10 000 puis la personne doit 40 000 dessus. Là. Alors, on leur suggère fortement là, d'en profiter pour remettre le véhicule aux créanciers puis que ça passe dans faillite. Puis pour les maisons, c'est le même principe. T'sais, s'il n'y a pas d'équité sa maison ou pas beaucoup d'équité, le syndic ne s'embarquera pas là-dedans. Puis s'il y a beaucoup d'équité, bien là, à ce moment-là, la personne, ça se peut qu'elle perde sa maison. Mais tu sais, généralement, quand elle est en faillite, c'est parce qu'elle a emprunté le maximum sur sa maison ou ses autres biens. Avec les syndics, c'est rare qu'ils vont avoir des maisons à vendre, sauf exception, Marc Bain. Ou encore, s'il y a un peu d'équité, on va dire, ben regarde, on estime qu'il y a 8 000 $ d'équité. Alors, trouve-toi quelqu'un qui va t'avancer 8 000 $ dans ta famille. Okay. Puis le syndic va avoir réalisé cet intérêt-là qu'il y a dans l'immeuble.
Mais avancer 8 000 $ à quelqu'un qui vient de faire faillite...
Pour rassurant, hein?
Par exemple, ce ne serait pas ma première idée.
Non,
c'est ça. Ouais, non, mais souvent, c'est des gens de la parenté, un conjoint ou des choses comme ça.
Quand même.
Ouais. T'es un peu comme moi, hein? T'es un peu méfiant. Hein? T'as pas été capable de gérer ton argent, imagine-toi si tu gères la mienne.
C'est ça.
Ça coûte combien faire faillite? Puis je sais pas, on n'est pas, ben, ben loin en âge, toi puis moi, Stéphane, là, mais je me souviens que quand j'étais jeune, on entendait parler des faillites, on entendait souvent... Moi, écoute, je me dois le cul, mais j'ai pas les moyens de faire faillite. Comment ça coûte faire faillite?
Les gens nous disent souvent ça. Ils disent, ben regarde, si je fais faillite, c'est parce que j'ai plus d'argent. Je lui dis, non, non, ça fait longtemps que vous avez plus d'argent. Si vous faites faillite, c'est parce que vous avez plus de crédit. Alors, une faillite, quelqu'un qui a pas de biens, qui a de très faibles revenus, une première faillite, ça va coûter autour de 1 800 $. Généralement, là... Mmh. 200 $ par mois pendant 9 mois, ou si la personne a vraiment, vraiment pas beaucoup de revenus, ça peut être 100 $ par mois pendant 18 mois. Il y a des dispositions de la loi qui permettent ça. Si la personne elle a des revenus pour la peine, ben, elle va payer au syndic, au bénéfice des créanciers, une portion de ces revenus-là pendant une période de temps qui va être déterminée par si c'est la première, la deuxième ou la troisième faillite. Puis l'importance de ses revenus puis ses autres charges financières. Fait que, tu sais, puis le syndic, lui, comme il ramasse ça pour les créanciers, ça va pas tout dans ses poches. Lui, il est payé, il y a une portion de ça selon un tarif qui est prévu dans la loi. Mais tu sais, c'est pas comme quand tu achètes un char, tu dis c'est 35 000 ou 25 000, là, ça fonctionne pas comme ça.
Autre question. Salut, moi je suis sur la CNESST depuis 15 ans et depuis 3 ans, j'ai une compagnie de recouvrement qui me harcèle à tous les jours. Je suis tanné un peu. C'est une dette de 1 500 $. Quelle est la solution? Ben, peut-être la payer.
Pour 1 500 $, ça ne vaut pas la peine de faire faillite ou une proposition. D'un autre côté, si la dette est déjà entre les mains d'une agence de recouvrement, ça veut dire que le créancier il investira pas beaucoup pour... dans des procédures, fait que vous pouvez faire une offre de règlement, là, ne serait-ce que nominale à l'agence de recouvrement, de garde, voici mes revenus, voici ce que je peux te payer. Sur 1 500 $, je pourrais te donner bon, 500 $, 100 $ par mois pendant 5 mois, puis ils vont arriver avec une contre-offre. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est ramasser quelques piastres.
OK. Mais tu peux-tu faire une série de chèques, je sais pas, moi, remettre 50 $ par mois, puis leur envoyer la série de chèques?
Ben, l'agence de recouvrement, là, ils veulent des dossiers qui se règlent rapidement. Okay. 50 piastres par mois pour payer 1500 piastres. Puis il faudrait regarder aussi si la dette, c'est à date de quand. Ben, ça se peut qu'elle soit prescrite aussi. Une dette là, qui est plus vieille, qui a plus que 3 ans, puis que le créancier n'a pas obtenu de jugement, ben, ça se peut qu'elle soit prescrite, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de recours par le créancier judiciairement là, pour se faire payer.
Salut, ma sœur a une dette d'études de 50 000 $ à l'Université d'Ottawa et actuellement veut faire faillite. Est-ce que la dette est libérable?
Ben oui. Bon, la dette libérable, le régime d'études, les dettes de pré-étudiants, il y a des dispositions spéciales de la loi qui disent que si tu fais faillite ou une proposition dans les 7 ans qui suivent la fin de tes études, puis pas juste les études qui ont été financées par le programme, mais les études en tout, là, bien, si tu fais faillite ou une proposition dans ces 7 ans-là, c'est une dette non libérable.
Okay.
Alors, si ça fait plus que 7 ans et jamais retourné aux études, bien, c'est une dette libérable. Sauf que si ça constitue une portion importante de tes dettes, puis c'est un montant suffisamment important, ça se peut que le ministère de l'Éducation, il s'oppose à ta libération, dépendamment là, de ses possibilités de récupérer des sommes dans le cadre de la faillite.
Okay.
Puis si la dette est à date de moins de 7 ans, tu fais faillite, puis tu es vraiment dans la misère. Une fois que tu es libéré, puis que ça fait au moins 5 ans que t'as fini tes études, tu peux présenter une requête en cours de faillite pour dire, regarde, moi, là, je suis pas capable. Puis le fait de conserver cette dette-là, ça me cause bien du trouble. Alors, la Cour peut décider de libérer le failli de cette dette-là.
Okay. Ça fait à peu près quoi? Une dizaine d'années que c'est rentré en vigueur, cette loi-là? 10-15 ans, certains?
C'est 23 ans.
23 ans?
C'est aller jusqu'à 1997, là, dette d'études, c'était une dette libérable, comme n'importe quelle autre dette là, de carte de crédit ou de prêt personnel.
Ben, c'était le truc à l'Université Laval.
Là. Ouais. Puis en 1997, ils ont dit, ben regarde, il y a peut-être des abus qui étaient anecdotiques. Il y a peut-être des abus, fait qu'on va dire, si tu fais faillite dans les 2 ans qui suivent la fin de tes études, ben ce ne sera pas une dette libérale. Puis ça, il y avait une certaine logique derrière ça, c'est que tu as droit à 4 shots de 6 mois pour différer le début du paiement de ton prêt étudiant. Mais tu sais, ça se tenait. T'sais, le gouvernement dit, on te donne 2 ans, 4 shots de 6 mois. Sauf qu'en 1998, là, du jour au lendemain, ils ont dit, non, finalement, ça va être 10 ans. Hein? Alors, il n'y avait pas aucune déduction logique, savoir d'où ça venait, ce 10 ans-là. Puis, en 2003, le gouvernement, qui doit reviser régulièrement la loi Safeyette, il a dit, regarde, on va demander des mémoires de l'Association nationale des syndics, les associations nationales d'étudiants, etc. Puis, on va les inviter à présenter leurs mémoires devant le comité des finances du Sénat. Puis là, moi, j'ai présenté cela à mon association nationale, où nous, on disait, regarde, là, 2 ans, c'était peut-être pas assez. On en convient. 10 ans, c'est trop, on en convient. Fait que 5 ans. 5 ans, ce serait un moyen terme qui serait acceptable. Puis tous les mémoires qui ont été déposés, là, il n'y a personne qui parlait de rien en haut de 5 ans. Finalement, le gouvernement, dans son infinie sagesse, il dit ça va être 7 ans. Mais il n'y a personne qui a parlé de 7 ans, là. Mais ils ont décidé que c'était 7 ans.
En comité.
Ouais, ouais, c'est le comité. Tu sais comment ça marche, un comité.
Ils se sont penchés là-dessus pendant 6 mois, puis ils ont tranché.
C'est ça.
Stéphane Leblon de chez Leblon et associé syndic autorisé. Dans le cas où on veut poser des questions par rapport à nos finances qui vont vraiment pas bien, on a l'intention de déclarer faillite, comment on peut te rejoindre?
Ben, les gens de Québec, c'est 418-525-4641. Les gens de l'extérieur, 1-877-525-4641. Puis il y a le site Internet, le Go Syndic Leblon, puis la page Facebook.
Bonne soirée, mon ami.
Merci beaucoup.
Salut, bonne soirée.
Bye-bye. Marceau, le soir. Radio X.